Bonjour et bienvenue dans l'émission Enquête ou Enquête d'Histoire, présentée par Jeanne-Marie. Je suis historienne et j'ai envie de faire revivre le passé de notre département car son histoire est riche et mérite d'être mieux connue. Cette émission de 30 minutes sera mensuelle. J'y accueillerai un intervenant, historien ou archéologue, ou autre à qui je poserai des questions. Bonjour les auditeurs de Radio MDM. De mes vœux de belle année 2024 pour tout le monde, le meilleur pour chacun d'entre vous. L'émission continuera à vous accompagner. Alors je rappelle, le mardi à 13h et le dimanche de la même semaine à 13h30. Bon, une fois par mois avec rediffusion la semaine suivante. Consultez quand même la grille des programmes pour plus de sûreté. Et n'oubliez pas que des podcasts de l'émission sont à votre disposition pour réécoute. Comme pour les précédentes émissions, Didier Vigneault, archéologue, spécialiste de notre région durant l'Antiquité et même les périodes précédentes, nous accompagne aujourd'hui encore pour cette série d'émissions. Précédemment, il a évoqué les méthodes et les moyens des archéologues pour reconstituer le passé, puis les paysages de notre région durant cette lointaine période. Enfin, lors de notre dernière émission, les campagnes et la vie rurale ici dans l'Antiquité. Et aujourd'hui, petit retour en arrière, Didier va nous parler de l'Aquitaine avant même l'arrivée des Romains, et notamment la figure des guerriers aquitains que l'on connaît essentiellement grâce aux fouilles archéologiques, notamment dans notre région. Bonjour Didier.
Bonjour Jeanne-Marie. À mon tour, je souhaite à tout le monde une excellente année 2024, avec plein de bonheur, plein de réussite et surtout la santé.
Alors Didier, tu vas nous présenter aujourd'hui ces guerriers aquitains qui ont donné du fil à retordre au général Crassus, qui était l'adjoint de Jules César. Je rappelle donc que durant la guerre des Gaules, seconde moitié du 1er siècle avant notre ère, lors de la conquête de la Gaule. Comment les connaissons-nous ?
On les connaît essentiellement par les nécropoles, c'est-à-dire par les cimetières au niveau du département des Landes. Nous avons aussi quelques habitats, mais nous n'avons pas d'autres textes que celui de la guerre des Gaules qui est écrit par Jules César, qui nous livre pas forcément de détails matériels.
Alors comment se présente une nécropole ?
Une nécropole, en fait, c'est un ensemble d'urnes funéraires qui ont été mis en terre. Chaque urne contient les restes d'un défunt qui a été incinéré et donc qui a subi une crémation. Et ces nécropoles sont spéciales puisqu'elles peuvent contenir du mobilier, du matériel qui a été déposé en offrande dans les sépultures.
Alors jusqu'à une période très récente, les historiens et les archéologues pensaient, à partir de l'état de leur connaissance qui évolue constamment, que les Celtes, qui constituent l'essentiel des peuples combattus par César dans la Gaule antique, ne s'étaient pas installés en Aquitaine. D'ailleurs, les cartes de ces peuples gaulois montrent que les Celtes n'avaient pas franchi la Garonne et qu'au sud de ce fleuve vivaient des tribus dites aquitaines, qu'on a aussi apparentées aux Ibères vivant en Espagne. Qu'en dit l'archéologie récente ?
Comme tu le dis, jusqu'à présent, donc, les Celtes n'avaient soi-disant pas franchi la Garonne. Ça, c'est ce que tout le monde croyait, ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une vérité qui est vraie et qui n'est pas contestable. Mais il y a un peu plus de 10 ans, je découvrais une nouvelle nécropole sur la commune de Jeloux. C'était la 41e que le Centre de recherche archéologique sur les Landes avait repérée sur notre territoire. Et 3 mois plus tard, en octobre 2013, avec mon collègue Stéphane, nous avons réalisé les premiers sondages sur les lieux. Et par contre, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que cette nécropole se démarquait des autres. En effet, habituellement, les nécropoles sur lesquelles le CRAL, donc le Centre de recherche archéologique sur les Landes, a travaillé, appartiennent au premier âge du fer, alors que celle de Jeloux appartient au deuxième âge du fer, soit une datation qui est comprise entre 425 et 175 avant notre ère.
Alors, évidemment, même si cela paraît très, très éloigné de notre époque, c'est très important de faire la distinction entre premier et second âge du fer. Et en quoi cette datation du second âge du fer est-elle aussi singulière ?
Elle est tout à fait intéressante, d'autre part parce qu'elle va marquer la période charnière qui va séparer la proto-histoire de la période romaine. Et en plus, jusqu'à présent, dans les Landes, nous n'avions que peu de découvertes de cette période chronologique. Qui plus est, les objets découverts à Joulux sont de tradition celte. Or, selon l'histoire et l'archéologie, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de Celtes au sud de la Garonne, d'où le grand intérêt de cette découverte.
Alors, que contenait de particulier cette nécropole de Joulux, puisqu'elle se démarque des autres nécropoles de la région?
Alors, tout d'abord, il faut préciser que ce site a retenu notamment l'attention de l'Université de Bordeaux, puisque après les sondages que nous avons effectués avec mon collègue Stéphane, cette nécropole a été fouillée par des équipes d'étudiants de Bordeaux. Et ensuite, est tout à fait intéressante, elle se démarque des autres nécropoles de la région, puisque 46 tombes du second âge des fers ont été fouillées sur ce site, par le CRAL, puis par les étudiants de l'Université de Bordeaux, au profit d'un chantier école, comme je disais tout à l'heure. Mais durant cette période du premier millénaire, les morts sont incinérés, contrairement aux inhumations en terre, qui sont caractéristiques de la période chrétienne. Après l'incinération, on recueillait les cendres dans une urne funéraire, et à Joulux, chaque tombe était composée d'une urne funéraire coiffée d'un plat couvercle, le tout accompagné de mobilier funéraire. Certaines tombes contenaient des bijoux, des bracelets, des fibules qui sont l'équivalent des épingles à nourrice moderne, et d'autres objets, et notamment certaines tombes contenaient de l'armement, des épées, des lances, des fragments de boucliers, de casques, et il y avait aussi des couteaux trouvés indifféremment dans l'un ou l'autre type de tombe. Alors, il est très difficile de sexuer, c'est-à-dire de donner un sexe à ces tombes. Est-ce qu'elles étaient masculines ou féminines? Ça, on ne peut pas le savoir. Et c'est très difficile, notamment avec le mobilier qu'elles contiennent, d'autant plus que l'étude anthropologique, c'est-à-dire des ossements, est pratiquement impossible dans le cas des crémations, des incinérations.
Oui, on aurait pu penser à une analyse ADN.
Oui, mais là, ce n'est pas possible pour le cas des crémations, puisqu'il n'y a pas assez de résidus osseux pour pouvoir réaliser ce type d'analyse.
Alors, donc, le personnage du guerrier aquitain sort un petit peu de l'ombre. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux évoquer, par exemple, les fonctions de l'armement découvert?
Alors, il y avait bien évidemment des épées hein, qui servaient à se battre en face à face. Et puis, il y avait aussi des lances hein, qui pouvaient être projetées sur les ennemis. Mais le personnage du guerrier aquitain, on n'en sait pas plus finalement, puisque comme je le disais tout à l'heure, cette découverte est assez unique. Et il est un peu compliqué là aujourd'hui de donner plus d'éléments sur ce guerrier aquitain. Quoi qu'il en soit, le guerrier aquitain a l'air d'être comme tous les autres guerriers. Il n'y a pas donc de différence entre les guerriers que l'on découvre habituellement dans le nord-est de la France et ceux que l'on découvre ici chez nous à Joulux.
Alors, ce sont des guerriers qui devaient donc défendre leur tribu ou bien leur peuple ou leur groupe, hein. On ne sait pas en fait. Ils devaient se battre, mais bon, ils ne se battaient pas en permanence, donc ce n'était pas une fonction permanente. Quel pouvait être leur statut dans la société de l'époque durant les périodes de paix?
Alors c'est assez compliqué, on parle dans l'histoire, on nous parle de paysans guerriers, des paysans qui ont un rôle en temps de paix. C'est celui de fournir, d'alimenter la communauté. Et un autre rôle en temps de guerre, c'est de prendre les armes et d'aller au combat. Alors, est-ce que ce sont des gens qui sont formés, puis ensuite mis en réserve au cas où il se passe quelque chose? Ça, on n'en sait rien, comme dans les armées modernes. Ou est-ce que ce sont des gens qui sont en permanence armés et qui, en même temps, font de l'agriculture? Ça encore, on n'en sait rien. On en est au balbutiement des recherches sur les guerriers de ces époques-là. Et ça, quelle que soit la région où nous nous trouvons, où nous habitons. Donc pour l'instant, c'est un petit peu compliqué encore de répondre à ces questions.
Alors, bon, on peut imaginer, comme le dit plus ou moins quand même Jules César dans sa guerre des Gaules, il y avait des conflits entre les groupes, il pouvait y avoir des tribus qui, à un moment donné, rompaient la paix, puis se mettaient à se battre. Alors ça, c'est tout à fait possible. Mais après, il pouvait y avoir aussi tout simplement une défense contre des pillards, des voleurs, etc.
Voilà, oui, bien sûr, les guerriers pouvaient juste avoir un rôle de police et défendre leur communauté contre des gens de l'extérieur.
Alors après, que nous apprennent aussi les fouilles de cette nécropole?
Ah, c'est une question très intéressante, puisque cette nécropole a aussi livré des objets qui sont totalement inédits. Alors ces objets, ce sont des fibules à disque en tôle de bronze décorée, que l'on appelle dorénavant les fibules de Joulux. puisque ces fibules sont uniques en Europe. Même chose que pour les bracelets massifs en bronze que l'on a découverts à Joulux, qui sont richement décorés et qui sont de fabrication locale.
Tu pourras nous dire quelque chose de particulier tout à l'heure sur la décoration ?
Oui, bien sûr. La décoration, je peux même répondre maintenant. Hein. La décoration, il s'agit de motifs que l'on retrouve pour la plupart dans le monde celte, que l'on copie, qui sont copiés dans le monde celte. On en retrouve aussi en Espagne, hein, mais pas du tout le même type de bijoux. Et ces décorations sont merveilleuses, jolies, puisqu'elles sont faites avec des techniques du repoussé, qui sont des techniques artisanales vraiment pointues. Donc ces décorations de bijoux sont tout à fait remarquables.
Alors, nous allons arriver au morceau de musique de notre émission. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui ?
J'ai choisi quelque chose qui colle parfaitement avec la thématique que l'on a aujourd'hui, puisque j'ai choisi le groupe Mano, la tribu de Dana.
Bon, alors, on va écouter la tribu de Dana.
Sur les plaines de la Bretagne armoricaine, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgé d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Incantations de druides et de magie, toute attribue le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. On entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. la tribu de Dana. Je suis devenu roi.
Alors, nous reprenons le cours de cette émission consacrée aux guerriers aquitains en compagnie de Didier qui a évoqué les découvertes réalisées dans les tombes de la nécropole de Jeloux. Quelques centaines d'années avant notre ère, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. Oui.
Découverte qui montre donc une proximité avec les groupes celtes que les historiens ou les archéologues n'avaient jusqu'à présent pas retenus. Alors, Didier, tu avais évoqué la présence de fusaïoles dans certaines tombes. Les fusaïoles, pour nos auditeurs, ce sont de petits objets en forme de disque. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ils servaient et ce que l'on peut penser de la présence de ces objets d'artisanat dans une tombe, ou plusieurs tombes d'ailleurs ?
Oui, alors ces petits objets en forme de disque sont souvent en poterie, ce qu'on appelle en céramique, et en général, ils indiquent que ces populations filaient la laine ou le lin pour fabriquer des vêtements. La grande majorité des objets de Jeloux sont répandus dans le monde celtique. Cela signifie la nécessité de commercer, qui est une idée renforcée par la création d'objets locaux, qui nécessitent des moyens techniques, des connaissances en orfèvrerie et un besoin en métal. Pour revenir aux fusaïoles, ces personnes dans les communautés filaient la laine qui était ensuite envoyée sur un métier à tisser pour pouvoir fabriquer tout objet qui nécessitait laine ou lin, sachant que la laine venait des animaux et le lin venait de l'agriculture.
Oui, c'est ça, j'allais te dire, effectivement, il y avait donc bien, sans problème, des activités agricoles, il y avait donc de l'élevage, peut-être même avec des bergers, ou alors, tout simplement, ça pouvait être aussi les enfants qui gardaient les animaux, hein, comme ça s'est fait pendant des siècles, d'ailleurs, dans nos civilisations.
Voilà. Et oui, l'école n'était pas encore inventée, donc les enfants étaient libres de ne pas aller à l'école et de faire d'autres activités à la maison.
Exactement. Alors, quand on revient sur les objets métalliques, est-ce que ce métal était coulé sur place ? Ou bien est-ce qu'il provenait d'objets recyclés ? Ou bien encore était-il importé, tout simplement ? Et puis, par exemple, modelé sur place ? Ou encore les objets étaient-ils intégralement importés d'ailleurs ? Tout ça, ça fait quand même beaucoup de différences et ça suppose des métiers d'ailleurs totalement différents aussi.
Oui, là dans ce cas-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une grande majorité des objets qui ont été fabriqués sur place, visiblement, fabriqués par des artisans qui sont régionaux, puisqu'on a des objets uniques. Et on avait d'autres objets que l'on retrouve dans le monde celtique, donc qui ont été soit importés ou soit copiés. Mais quoi qu'il en soit, le métal, on ne sait absolument pas à ce jour d'où il vient. Donc on n'a pas encore fait réaliser des analyses sur ce métal pour pouvoir savoir si c'est du métal recyclé ou si c'est du métal qui a été fabriqué localement, donc à partir d'éléments qui auraient été, eux, importés, puisque, comme vous le savez, le cuivre ne se retrouve pas dans notre région. Donc il est forcément importé soit peut-être du Massif central ou importé d'Angleterre, on ne sait pas.
Ou d'Espagne, peut-être.
Ou d'Espagne, mais il y a quelques mines en Espagne, mais pour l'instant, visiblement, il n'y a pas trop de relations avec le monde qu'on appelle Iber. Donc peut-être que le métal viendrait d'ailleurs.
Alors, on n'a pas retrouvé non plus de traces, par exemple, de petits ateliers métallurgiques ?
Non, pas pour l'instant. On a retrouvé une trace d'un atelier métallurgique, mais plutôt lié à l'exploitation du fer, plutôt qu'à la réalisation d'objets en alliage de cuivre.
Alors, à partir maintenant des noms de peuples que nous donne Jules César dans son ouvrage La guerre des Gaules, parce qu'il nous donne un certain nombre de noms de peuples, est-ce qu'on peut éventuellement identifier les habitants de Jeloux et les rattacher à l'un de ces noms de peuples ?
Alors, je vais encore une fois être décevant, mais pour l'instant, c'est impossible de répondre à cette question, étant donné qu'on n'a toujours pas trouvé d'écriture qui nous permette de connaître le nom des peuples. Hein. Donc, à Jeloux, nous ne connaissons pas le nom de cette tribu ou de ce peuple, hein, puisqu'on ne sait pas si c'est une tribu ou un peuple à part. Mais depuis 10 ans, il y a eu d'autres découvertes similaires à celles de Jeloux, et celles-ci n'est donc pas un cas isolé. Nous avons découvert des habitats, mais aussi 4 autres nécropoles de cette période qui ont été découvertes dans les Landes. Toutes ont livré de l'armement, et l'une d'elles a même livré un bracelet que l'on retrouve à Jeloux. Donc ça veut bien dire que ces objets, ces bracelets, étaient diffusés localement. On en retrouve sur 2 nécropoles distinctes d'environ 30 km. On a découvert, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, des habitats, il y en a 30 de cette période, donc 30 dans le bassin de la Midouze.
Alors, pour revenir juste 30 secondes sur le nom possible des peuples auxquels se rattacheraient les habitants de Jeloux, il faut quand même signaler à nos auditeurs que, notamment dans cette région, bon, il n'y a pas eu de langue écrite. Il y avait des échanges oraux, sans doute une tradition d'échange oral et de transmission orale. Donc, c'est le cas dans quand même une grande partie de la Gaule, sauf dans les régions comme la Provence où effectivement là il y a eu en effet des populations locales qui ont utilisé notamment le latin, mais ce n'est pas le cas effectivement ici, c'est pas du tout le cas. Alors on reste sur notre faim.
Oui, mais je serai un peu moins direct que toi sur ce sujet, puisque effectivement on n'a pas retrouvé d'écriture, hein, sur un support dur, hein, comme la pierre ou la poterie. Mais il ne faut quand même pas oublier que nous sommes dans un territoire où il y a eu très très peu de fouilles intensives, hein, notamment pour cette période. Hein. On ne connaît pas du tout cette période dans les Landes. Très peu. On la connaît puisque le centre de recherche archéologique sur les Landes a fait des découvertes. D'ailleurs, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu ce genre de découverte d'effectuer. Mais l'archéologie préventive qui, elle, mène des fouilles d'ampleur et qualitative importante, notamment en faisant venir des spécialistes sur les chantiers, cette archéologie préventive n'intervient pas dans les Landes, elle est très peu présente. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé d'écriture qu'il n'y en a pas eu. Il peut y en avoir eu, notamment sur des supports qu'on appelle périssables, comme notamment de la cire ou alors des écorces d'arbres, puisque c'était assez courant de faire des parchemins avec des écorces d'arbres, surtout à cette époque. Il peut y avoir d'autres supports qui n'ont laissé aucune trace, comme le bois. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout d'écriture de ces peuples sur ces périodes. Alors en Pays Basque, ils ont découvert des écritures sur des supports en métal, mais ce sont des écritures récentes. Et donc, il se peut qu'un jour nous trouvions, nous aussi dans les Landes, des écritures des peuples aquitains.
Très bien, ben, on peut l'espérer en tout cas.
On croise les doigts.
Alors, tu as parlé tout à l'heure des échanges, donc, je te demande juste de confirmer, il y aurait bien eu des échanges réciproques entre des Celtes et populations landaises.
Alors, population landaise, les populations qui habitaient dans les Landes, enfin l'équivalent voilà. Des Landes à cette époque-là, oui, bien sûr, il y a eu des échanges. La preuve, c'est qu'on a retrouvé des objets qui viennent du monde celte, hein. Et c'est pour ça que nous sommes certains que les Landes n'ont pas échappé à la période celte du deuxième âge du fer. Alors, comme on le pensait il y a encore une 15aine d'années, on pensait, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une 15aine d'années, on pensait qu'il n'y avait pas du tout d'échange entre le nord et le sud de la Garonne. On découvre maintenant que c'était une vérité qui était totalement fausse. Beaucoup de chercheurs pensaient aussi que les Landes étaient en relation avec le monde ibérique, c'est-à-dire l'Espagne d'aujourd'hui. D'autant plus qu'en Chalos, on a trouvé un objet en argent qui s'appelle une fiale, qui est une coupe qui n'a pas de pied et qui comportait des inscriptions ibériques, donc venant du monde espagnol aujourd'hui. Or, les objets découverts lors des différentes opérations archéologiques qui ont été faites au nord de la Doure montrent une culture matérielle qui est tournée vers le nord au lieu d'être tournée vers le sud. Les objets qui sont d'origine ibérique sont en nombre anecdotique, c'est-à-dire qu'il y en a deux ou trois dans la nécropole de Joloux, pas plus. Mais comme je l'ai déjà dit, et j'insiste, il s'agit là d'une culture matérielle, c'est une culture des objets, qui ne reflète peut-être pas la culture linguistique et politique de ces peuples. En effet, ce n'est pas parce que j'ai chez moi une fameuse boisson à l'étiquette rouge et une boisson gazeuse que je suis obligatoirement américain.
Non, parce qu'alors à ce moment-là, on serait nombreux à être américains.
Voilà, exactement. Donc ce n'est pas parce que ces populations de l'époque avaient des objets celtes qu'ils étaient forcément celtes.
Alors, nous pouvons quand même nous interroger sur ces populations du deuxième âge du fer. Alors, qui sont-elles ?
C'est une excellente question. Pour l'instant, c'est un peu compliqué d'y répondre. J'espère qu'avec les prochaines analyses qui seront faites sur les autres nécropoles, on pourra peut-être commencer à avoir un début de réponse. Mais la question est la suivante. Est-ce que ce sont des tribus d'un seul peuple ou avons-nous une seule et même tribu, soit un seul peuple ? Ça, c'est une question qui est assez importante, mais qu'on n'arrive pas à résoudre jusqu'à présent. Pour l'instant, il est très compliqué d'y répondre, même si on perçoit une différence entre les formes et les pattes des poteries entre le bassin de la Midouze et la région de Roquefort. Alors, cette piste est en cours d'étude, et nous saurons donc si ce ressenti se confirme ou pas.
Oui, parce que ce n'est pas parce que des communautés de notre département... Je parle en référence au département d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce qu'elles sont éloignées de 30 ou 50 kilomètres qu'elles produisent des poteries différentes, qu'elles appartiennent, ou non d'ailleurs, à un même peuple, à une même tribu. On ne peut pas effectivement du tout conclure là-dessus.
Non, absolument pas.
Bien. Alors, finalement, nous arrivons à la fin de cette émission passionnante. Le mois prochain, nous allons donc aborder comme sujet... Le commerce dans les Landes durant l'Antiquité romaine.
Oui, c'est ça, oui. Je vais vous présenter le commerce dans les Landes au cours de l'Antiquité et vous verrez, vous découvrirez que le commerce a été aussi assez important dans les Landes et que nous n'étions pas un monde à l'écart du monde romain.
Eh bien, Didier, un grand merci à toi pour cette émission. Nous allons quitter nos auditeurs à qui nous disons au revoir et au mois prochain.
Au revoir, Jeanne-Marie.